Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, au Liban, 6 personnes sont mortes, dont 2 secouristes et un enfant, dans une frappe israélienne dans le sud du pays, malgré le cessez-le-feu en vigueur. La France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont appelé Israël à cesser d'étendre ses colonies en Cisjordanie et ont condamné la violence des colons. En France, Gabriel Attal a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle et son ambition de succéder à Emmanuel Macron. Dans l'actualité, au Moyen-Orient, nous l'avons évoqué dans les titres, au Liban, 6 personnes sont mortes, dont 2 secouristes et un enfant, dans une frappe israélienne dans le sud du pays, malgré le cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. Le chef de l'armée pakistanaise est en route pour Téhéran, selon des sources sécuritaires au Pakistan, pays médiateur dans les négociations visant à mettre fin à la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Et un responsable des Émirats arabes unis a estimé à 50-50 les chances pour les États-Unis et l'Iran de trouver un accord permettant de débloquer le détroit d'Ormuz. Et l'Union européenne a ouvert la voie aujourd'hui à des sanctions contre des personnes ou des entités en Iran qui bloqueraient le détroit. Conséquence du conflit face à cette crise qui va durer, selon le Premier ministre français Sébastien Lecornu. Lui et son gouvernement ont annoncé une prolongation et une amplification des aides à hauteur de 710 millions d'euros pour faire face à la hausse des prix du carburant, sans pour autant détailler les économies à venir pour ne pas creuser davantage le déficit. Dans le reste de l'actualité, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont appelé Israël à cesser d'étendre ses colonies en Cisjordanie et ont condamné la violence des colons. Ils ont également mis en garde les entreprises candidatant à des marchés de construction. À Gaza, de graves pénuries de matériel médical empêchent les hôpitaux et les centres de santé de fonctionner pleinement dans l'enclave. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle dénonce des restrictions israéliennes sur l'entrée de ces fournitures essentielles. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola représente désormais un risque très élevé pour la santé publique dans le pays, contre élevé présent selon l'Organisation mondiale de la santé, tandis que les risques au niveau régional et mondial restent inchangés. Dans la région de Lugansk, maintenant occupée par la Russie, au moins 6 personnes sont mortes et 15 sont portées disparues dans une frappe ukrainienne sur un lycée, selon les autorités russes. Dans un tout autre volet, en France, Gabriel Attal a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle et son ambition de succéder à Emmanuel Macron, avec qui il est en froid depuis la dissolution, à condition de supplanter Édouard Philippe au sein du bloc central. Et enfin, 65 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue après des incidents hier soir à Paris impliquant des supporters de l'OGC Nice qui ont également fait 6 blessés, dont un grièvement, selon la préfecture de police. La ministre des Sports, Marina Ferrari, a déploré ces incidents qui sont une honte pour l'image du football et du supporterisme, selon ses mots. Elle a également annoncé que des mesures seraient prises contre ces individus. C'était votre rendez-vous d'information. Merci pour votre écoute. À suivre les dossiers du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier, guerre au Moyen-Orient. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a dressé plusieurs scénarios, parfois noirs, concernant le futur de la guerre. Deux d'entre eux ont notamment été avancés par le chef du gouvernement, soit un potentiel retour à la normale qui pourrait être prévu entre l'été et l'automne, soit une reprise du conflit. On l'écoute.
Force est de constater que, d'une manière ou d'une autre, cette guerre, sous une forme ou sous une autre, cette guerre va durer. Soit de manière froide, comme on l'a actuellement, on peut le constater, soit malheureusement aussi avec une reprise des conflits et des frappes, ce qui est un scénario évidemment possible. Et au fond, on le voit aussi, le temps devient une arme en tant que telle des belligérants, et singulièrement des gardiens de la Révolution, puisqu'ils le savent, la pression exercée sur Hormuz est une pression sur l'ensemble de l'économie mondiale, y compris d'ailleurs en Asie, et donc si ce temps devient une arme, il faut également pour nous en tirer des conclusions. Alors, il est difficile de donner des scénarios auxquels nous pourrions nous raccrocher sans effrayer personne et sans être trop optimiste. Au fond, le scénario désormais le plus optimiste, c'est pas forcément celui que je retiens d'ailleurs, c'est au fond une forme de retour à la normale entre l'été et l'automne. Donc on parle déjà de plusieurs semaines et plusieurs mois potentiels, sachant qu'une fois de plus, la guerre peut prendre différentes formes. Et vous avez des scénarios noirs qui nous feraient plonger dans d'autres gestions de crise, c'est-à-dire reprise non seulement des conflits, des frappes, destruction des sites de production d'hydrocarbures au Moyen-Orient, voire même non seulement la fermeture d'Hormuz, mais aussi la fermeture de Bab el-Mandeb. Ça, c'est pas non plus le scénario qu'on retient, de toute façon, nul ne le sait, mais entre un scénario très optimiste qui nous emmène quand même à plusieurs semaines, plusieurs mois, et les scénarios les plus noirs et catastrophistes, on voit bien qu'on change de dimension dans la manière de gérer cette guerre.
Vous venez d'écouter le Premier ministre français Sébastien Lecornu. Alors que l'ombre de la guerre pèse sur le Moyen-Orient, un événement religieux hautement important doit s'y tenir la semaine prochaine. Il s'agit du Hajj, le grand pèlerinage annuel des musulmans à la Mecque. Plus d'un million de personnes du monde entier ont déjà commencé à converger vers la ville sainte. Marc-Aurel Barrez, vous nous expliquez en quoi la guerre impacte le pèlerinage cette année.
Oui, plus de 40 degrés, un soleil implacable, pas de quoi décourager les fidèles qui se rendent cette semaine en Arabie saoudite pour célébrer le Hajj. Ce pèlerinage consiste en une série de rites qui s'étale sur plusieurs jours à la Mecque et dans ses environs. C'est un des 5 piliers de l'islam. Il doit être entrepris au moins une fois dans la vie de chaque musulman s'il en a les moyens. Bref, pour de nombreuses personnes, c'est le rêve de toute une vie. Problème cette année, la toile de fond, c'est bien la guerre au Moyen-Orient et les craintes d'un nouvel embrasement. Et forcément, cela rend l'événement religieux particulièrement sensible. Riyad tient à maintenir la politique à l'écart. Illustration, un média d'État rappelé mardi les règles à suivre pendant le pèlerinage. Interdiction de brandir des drapeaux politiques ou confessionnels. Interdiction de scander des slogans.
Et que craint l'Arabie saoudite dans ce contexte?
Principalement une répétition de l'histoire. Notons-le, et c'est important, le moment du pèlerinage est depuis longtemps un point de tension entre l'Iran majoritairement chiite et l'Arabie saoudite majoritairement sunnite. Quelques exemples de précédents. Après la révolution islamique en Iran, les autorités saoudiennes ont plusieurs fois accusé les pèlerins iraniens de provoquer des bousculades meurtrière. Prenez l'année 2015, Riyad et Téhéran s'étaient renvoyés la responsabilité après la mort de 2300 pèlerins dans un mouvement de foule. Plus de 450 étaient iraniens. Ou encore en 2016, lorsque les autorités saoudiennes ont purement refusé l'accès à la ville sainte aux Iraniens. Aujourd'hui, 30 000 pèlerins iraniens sont déjà à la Mecque, d'après les chiffres de la compagnie Iran Air. C'est beaucoup moins que les 86 000 initialement annoncés. La faute, hein, vous vous en doutez, à la guerre au Moyen-Orient. Donc, malgré les tensions international, Umer Karim, spécialiste de la politique étrangère saoudienne, interrogé par l'AFP, se veut rassurant. L'Arabie saoudite et l'Iran ont maintenu leurs canaux d'engagement politique ouverts malgré la guerre.
Merci Marc-Aurel Barrez pour toutes ces précisions. Second dossier, on va revenir sur le Code noir, un texte instauré lors de l'époque de l'esclavage qui le réglementait et qui n'a jamais été vraiment révoqué jusqu'ici. En ce sens, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté cette semaine un texte prévoyant son abrogation symbolique. Le président de la République, Emmanuel Macron, a exprimé son soutien à cette décision. On l'écoute.
Il subsiste encore un texte qui n'aurait jamais dû survivre à l'abolition de l'esclavage, encore moins traverser les siècles jusqu'à nous. Un texte qui n'a jamais fait l'objet d'une abrogation formelle par la République, au point que cet oubli est comme devenu une faute. Je veux ici citer évidemment ce qu'on appelle le Code noir, promulgué en mars 1685 sous l'égide de Louis XIV, rédigé sous l'autorité de Colbert. 60 articles destinés à organiser la mise en esclavage d'êtres humains dans les colonies françaises. 60 articles pour réduire les Africains à l'état de biens meubles, prescrire les châtiments corporels les plus abominables, organiser la séparation des familles, nier enfin à des centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants leur humanité fondamentale. Certes, depuis l'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, ce terrible code ne produit plus d'effet juridique. Mais précisément, le droit n'est pas seulement une mécanique des faits. Le silence, voire l'indifférence que nous maintenons depuis près de 2 siècles à l'égard de ce code noir, n'est pas un oubli, mais est devenu une forme d'offense, un défi à ceux qui nous fondent depuis 1789. C'est pourquoi je demande au gouvernement de faire sienne la proposition de loi visant à abroger le code noir qui doit être débattu le 28 mai prochain à l'Assemblée nationale. Je veux ici saluer le travail de nombreux historiens qui ont soulevé ce débat, l'ont porté jusque dans la sphère politique. Oui, la France va enfin abroger le code noir. Non pas pour l'effacer de notre histoire. Les archives demeureront, les historiens continueront leur travail, les musées continueront de l'exposer. Mais pour affirmer clairement que son maintien est une trahison de ce qu'est la République. Et parce que la République française doit enfin se donner les moyens de dire, dans sa propre langue juridique, avec la même solennité qu'elle a su déployer pour d'autres textes de mémoire, oui, ce texte est contraire à notre Constitution, contraire aux droits de l'homme et du citoyen, contraire à l'égale dignité de tous les êtres humains que nous professons comme une valeur fondatrice. Oui, en nous reconfrontant à ce que la France a pu faire avec lucidité, nous aurons à dire non.
Et vous venez d'écouter Emmanuel Macron. On va revenir maintenant sur l'adoption de ce texte, hein, prévoyant l'abrogation symbolique du Code noir et surtout de ce qu'il signifie avec vous, Nadia Bencher.
À l'unanimité, les députés de la Commission des lois ont voté l'abrogation du Code noir à la veille du 25e anniversaire de la loi Taubira. Une décision présentée comme un geste symbolique et politique fort. Le Code noir désigne un ensemble d'édits royaux adoptés au XVIIe et XVIIIe siècle pour encadrer l'esclavage dans les colonies françaises. Selon le rapporteur du texte, le député de Guadeloupe Max Mathiassin, ces dispositions ont organisé la négation de l'humanité des femmes, des hommes et des enfants réduits en esclavage en raison de leur origine et de la couleur de leur peau. Le texte rappelle qu'ils étaient assimilés à des biens meubles et soumis à des châtiments particulièrement violents. L'esclavage a pourtant été aboli une première fois en 1794, puis définitivement en 1848, mais le Code noir n'a jamais été formellement abrogé par le législateur et demeuré, selon les auteurs du texte, dans l'ombre du droit. Les débats ont aussi ravivé la question des héritages de l'esclavage et de la colonisation avec les inégalités persistantes entre l'Hexagone et les Outre-mer ou encore les discriminations subies par les personnes noires. La proposition de loi sera examinée dans l'hémicycle le 28 mai.
C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.